bienvenue dans Les mots des livres. Nous sommes ensemble sur les ondes d'IDFM Radio jusqu'à 19h et en direct avec un invité. Pour commencer, Nicolas Barail, il est scénariste, dessinateur d'un magnifique album de bande dessinée dont on va parler ensemble. Il s'intitule L'intranquille Monsieur Pessoa. C'est paru aux éditions d'Argo. C'est un voyage dans l'univers de ce poète portugais qui était donc Fernando Pessoa et il va nous en parler. Puis nous retrouverons Eric Van Ham qui va nous donner son coup de cœur littéraire de la saison. Et dans une seconde partie de l'émission, nous évoquerons d'autres ouvrages, grand, petit format et littérature, jeunesse. On se retrouve juste après ça avec notre invité. À tout de suite. Ah oui. Et pour l'occasion, comme un grand nom de la chanson et des mots vient de nous quitter, Charles Dumont, eh bien, on va passer un de ses plus grands tubes. Non, je ne regrette rien. Interprété avec Thomas Boissy. À tout de suite.
Rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Ni le mien. On m'a fait. Ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé.
Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de
balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien.
Non, je ne regrette rien, car ma vie.
Car mes joies
aujourd'hui,
ça commence avec toi.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Retrouvons Nicolas Barail, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre dernier album de bande dessinée. Il s'intitule L'intranquille Monsieur Pessoa. Ça vient de paraître aux éditions d'Argo. On peut déjà rappeler que vous aviez déjà travaillé sur un ouvrage qui évoquait le Portugal. Il s'intitule Sur un air de fado et qui nous plongeait sous la dictature des années 60. Et là, vous vous êtes penché sur les derniers jours d'un des plus grands auteurs de la littérature portugaise, Fernando Pessoa. Alors tout d'abord, comment vous est venue l'idée, l'envie d'évoquer cet homme?
Alors il faut que je vous fasse une confidence. Ma femme est d'origine portugaise. Et dans le trousseau de mariage, il y avait... Fernando Pessoa, voilà.
Et du donc, coup, vous avez eu un coup de cœur, après un coup de foudre, un coup de cœur pour cet auteur?
Oui, c'est venu progressivement. J'ai commencé par lire un livre au début des années 90, un livre d'Antonio Tabucchi, dont le titre est « Une malle pleine de gens », qui était un essai sur Pessoa. Et puis voilà, j'avais été intéressé par la question des hétéronymes, en particulier.
Oui, alors rappelez-nous déjà ce que sont les hétéronymes, pour nos amis auditeurs.
Alors Pessoa, en fait, écrivait...
On a un petit souci technique. Nicolas Barral. Allô. On a un petit problème. Alors attendez, on revient juste après ça. On va essayer de retrouver notre invité. À tout de suite.
Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent heureux. Dis-moi si tu aimes bien nos paresses et nos matins d'amoureux. Dis-moi que c'est un début, mais que tu vois déjà la suite à deux. Que tu n'es jamais autant désiré. Je n'ai pas de rendez-vous, plus de rencarts que j'ai envie d'accepter. Avec toi c'est évident, je suis prête à oublier mon passé. J'ai toujours aimé charmer, mais peu importe, s'il n'y a qu'à toi que je plais. Moi je me dis que c'est toi. Aux limites de l'indécent. Tu comprends tous mes silences, chacun de mes petits moments d'absence. Si je vais au paradis, je suis pas sûre de voir la différence. Moi je me dis que c'est toi, et je sais que tu y crois. Tu es celui qui
est FM Radio, le média valdoisien.
Retrouvons notre invité Nicolas Barral, dont on a, je le regrette auprès de nos amis auditeurs, eu une interruption inopinée hein, du téléphone. Vous êtes toujours là ?
Oui, j'espère pour quelques temps.
Oui. Alors voilà, on évoquait donc cet écrivain Pessoa qui avait cette tendance donc à écrire avec ces fameux hétéronymes que vous nous expliquiez et dont on retrouve d'ailleurs beaucoup d'informations dans votre ouvrage L'Intranquille Monsieur Pessoa, et vous nous expliquiez ce qu'étaient ces hétéronymes.
Oui, les hétéronymes. Alors ce ne sont pas des pseudonymes. Ce sont des véritables personnages que Pessoa avait créés, et il se voulait en fait dramaturge d'un théâtre littéraire dont il endossait tous les rôles. Voilà, donc un hétéronyme, c'est un pseudonyme avec une véritable personnalité, une véritable biographie.
Et ce qui est formidable dans votre ouvrage, bon, ça commence ainsi hein, par un rendez-vous, on est en 1935, l'année de sa disparition, et un rendez-vous de Pessoa chez son médecin qui lui explique qu'il est condamné, hein, car il est très jeune, hein, il a une quarantaine d'années malgré tout, il a une vie qui a tendance à avoir été brûlée par les deux bouts.
Oui, il est alcoolique.
Oui.
Voilà.
C'est ce qui va le tuer. Et malgré tout, on voit que c'est pas. Est-ce que la mort l'effraie ? Peut-être pas. En tous les cas, on voit qu'il va essayer de pas régler les comptes avant de partir. Mais
mettre ses affaires en ordre, oui.
Voilà, c'est ça.
Oui, il a une attitude un peu bravache face à la mort. En fait, j'ai situé effectivement l'histoire dans les derniers jours de son existence. Et j'ai mis en scène un personnage de journaliste.
Oui.
Simon Cerdeira, qui n'a pas existé, qui est chargé de réaliser sa nécrologie. Voilà, donc en fait, l'histoire montre en parallèle le journaliste mener l'enquête, interroger des personnes qui ont croiser Pessoa dans leur vie. Un ministre, par exemple, un ancien collègue de Pessoa qui est devenu ministre, et puis sa sœur. Et en parallèle, on voit Pessoa, effectivement, qui tâche de terminer son grand œuvre, le livre de l'intranquillité. Et voilà, et donc on a comme ça une espèce de chassé croisé entre ces deux personnages.
D'ailleurs, qui ne vont jamais se rencontrer.
Alors, ils s'entraperçoivent. Oui. Le journaliste est un jeune pigiste. Alors, pourquoi
auteur
j'ai choisi
aussi.
Un jeune. Pardon?
Auteur également.
Oui, voilà, il se veut écrivain, il veut devenir écrivain. Et j'ai choisi quelqu'un de jeune parce qu'il me fallait un candide. Je souhaitais que le lecteur finalement avance au rythme des découvertes de mon personnage Simon. Effectivement, il veut devenir écrivain.
Et donc, on va découvrir, grâce à son enquête, hein, qui était Pessoa, et notamment grâce à ces rencontres assez incroyables, on va aussi avoir des flashbacks hein, sur l'enfance de ce grand auteur qui a eu des drames hein, dans sa vie et qui à chaque fois que vous les racontez, vous avez changé de couleur hein, sur ces planches pour rappeler à une façon de photo sépia que ça fait partie du passé du personnage.
Oui, c'était à la fois pour donner une touche nostalgique au récit de l'enfance, et puis c'était également aussi un moyen de permettre au lecteur de se retrouver entre les différentes époques qui sont évoquées dans le livre. Et voilà. Oui, l'enfance de Pessoa était importante à mes yeux pour expliquer probablement ce qu'il est devenu, enfin ce qu'il a amené à écrire et surtout ce qu'il a amené à s'inventer tous ses amis imaginaires. Quand il était petit, Pessoa a vécu deux drames consécutifs. Il a perdu d'abord son père, alors qu'il avait 5 ans, et puis son petit frère, à l'âge de 6 ans. Donc il s'est retrouvé seul. Et c'est à cette époque qu'on trouve trace d'un premier ami imaginaire. Puis ensuite, sa mère l'a emmené en Afrique du Sud, parce qu'elle s'est remariée avec le consul du Portugal à Durban. Et ça a été très douloureux pour lui de quitter Lisbonne, où il avait tous ses repères. Donc voilà, c'était important pour moi de chercher un peu la clé de Pessoa, de sa vocation d'écrivain. Et ce que je voulais en fait évoquer, ce qui m'intéressait, parce que j'ai interrogé l'auteur que je suis sur la raison qui le poussait à s'intéresser d'aussi près à Pessoa. Mais en fait, la réponse est simple, c'est que Pessoa me donnait l'occasion d'essayer de comprendre pourquoi on écrit. Voilà, et d'essayer de mettre en scène l'univers intérieur d'un écrivain. Et avec Pessoa, c'était assez simple, parce qu'effectivement, son univers intérieur, il l'avait décliné sous la forme de tous les personnages que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, c'était assez facile, en fait, pour moi, à mettre en scène.
Et c'est formidable. On apprend beaucoup de choses sur ces derniers moments, hein, mais aussi évidemment sur toute la vie de cet grand écrivain qui n'a pas connu beaucoup de succès de son vivant, mais qui a été encore aujourd'hui hein, une des plumes les plus lues en Europe, en tous les cas au Portugal. C'est merveilleux. En plus, vous le rappeliez, c'est un auteur qui a écrit sous différents hétéronymes et on va découvrir grâce à vous ces fameux grands noms qui ont traversé et puis cette fameuse malle où étaient enfermés hein, tous ces écrits dont on va retrouver une photographie à la fin de votre album.
Oui, j'ai mis la photo à la fin parce que je voulais montrer. Enfin, mon intention était de permettre au lecteur de mesurer en fait le fait que tout ce que je racontais eh bien était vrai. Et voilà, cette malle existe. Elle est à la Bibliothèque nationale de Lisbonne. Et voilà.
Et c'est un homme dont vous rappelez préférer écrire que de risquer de vivre.
Oui, effectivement, il se réfugiait dans l'écriture, comme beaucoup d'auteurs. Peut-être moi-même, j'ai choisi ce métier pour cette raison-là. C'était que écrire, raconter des histoires, c'est un refuge.
et cet intranquille monsieur Pessoa, on voit combien effectivement il avait du mal à être parmi hein, ses contemporains. Et même lorsqu'il va croiser dans la rue des enfants qui chahutent un autre, il va prendre tout de suite la défense. Et là, ça fait écho évidemment à sa propre jeunesse, à la disparition de ce frère. Là encore, hein, tout rappelle les douleurs de cet homme et aussi ses rencontres hein, qu'il a eues, vous l'avez rappelé, hein, avec des grands noms de l'histoire politique, littéraire du Portugal. Et également, une femme, sa sœur, une collègue avec qui il aurait pu faire quelque chose de sa vie, mais vous l'expliquez aussi.
On va pas tout raconter.
Non, mais effectivement, mais on découvre comme ça, grâce à cet ouvrage, toutes les ambivalences de cet homme et aussi le travail hein, acharné hein, qu'il avait, notamment grâce à sa rencontre avec son barbier. On voit que c'était un homme qui était vraiment habité par son métier d'écrivain et qui le à la fois le nourrissait mais le tuait à petit feu. Comme un feu quoi, le brûlait
le brûlait,
à l'intérieur.
Oui, voilà. À l'intérieur, oui. Oui, disons que oui, c'est ça, il n'avait pas d'amis, alors il s'en était inventé et tout ce petit toute cette compagnie effectivement le lui permettait de faire face à ses démons et c'est ça que j'ai essayé de mettre en scène.
Et c'est formidable. On rappelle le titre, L'intranquille monsieur Pessoa, c'est de vous, Nicolas Barral. Un mot aussi, parce qu'on le découvre aussi dans votre ouvrage, vous êtes à la fois l'auteur, hein, le scénariste, le dessinateur, mais on parle rarement de la couleur, mais ici, il y a un vrai travail de couleur que vous avez fait avec une de vos proches, Marie Barral.
Oui, ma fille.
Votre fille. Et c'est magnifique. C'est un one-shot, c'est-à-dire un ouvrage en un seul volume à découvrir aux éditions d'Argo. Alors, je ne sais pas si vous êtes en pleine promotion. Est-ce que vous êtes présent à des rencontres dédicaces auprès de vos lecteurs?
Alors, je serai au Festival de Blois le week-end prochain. Je serai à Rouen le 29 novembre. Et le 30 novembre, je serai à Rambouillet pour le Bédéton.
Eh bien, c'est noté. Merci encore à vous, Nicolas Barral. On rappelle le titre « L'intranquille monsieur Pessoa » paru chez Dargo. Et on va se quitter en musique avec une invitation à aller à la capitale du Portugal, Lisboa, de Wendy Nazaré. Merci à vous. Au revoir.
Merci, au revoir.
Déjà dans mes veines, le creux qu'a laissé les larmes et la distance de 2000 kilomètres.
C'est parce que t'as le même gorgé de soleil et de souvenirs qui dansent au rythme des fadous de leur robe noire et cris immenses.
Y'a comme un goût de par cœur que je parcours dans tes soirs, tes matins. Pourtant on n'est ni sœur ni amant avec ou sans lendemain.
On a ces mêmes grands plats, ces grands hommes qui nous ont marqués au fer.
Depuis Salazar, le marquis de Pombal, jusqu'à nos terribles grands-pères.
Chère abeille,
je
t'aime ça,
chère loi.
Chère
Lisboa,
perdu Tu entre la mer et les montagnes mentholées de Sintra. Toi tu te repères avec un nuage d'allégria.
Ta seule ligne de conduite est de suivre le vent. Et peu importe les marées hautes ou basses, orages, tourments, pourvu qu'il t'emporte.
Para 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 para
para
para para
para para
para para para para para para para
para
para para
para para
para para para para para para
para para para para para. Pire que l'enfer, plus belle, plus rayonnante, tu nous éclabousses de lumière. Et ça me rassure de savoir que même quand nous ne serons plus là, même juste en l'air encore, on te sentira.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Et nous retrouvons Eric Kirigouam, bonsoir.
Oui, bonsoir Laurence.
Alors vous allez nous donner votre coup de cœur de la saison, on vous écoute.
Alors mon coup de cœur de la saison est un roman d'Arnaldur Indridason qui s'intitule Le roi et l'horloger et qui est paru l'année dernière aux éditions Métellier. En effet, Arnaldur Indridason, vous le savez certainement, est célèbre dans le monde entier, notamment pour ses romans policiers, dont particulièrement La Cité des Jars, hein, qui est un chef-d'œuvre du genre. Alors évidemment, fort logiquement, lorsque mon épouse m'a offert Le roi et l'horloger, je m'attendais a priori à un roman dans la même veine. Que nenni, en fait, parce qu'avec Le roi et l'horloger, Arnaldur Indridason nous gratifie d'un roman historique qui nous plonge dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, à la cour du roi du Danemark, Christian VII. Lorsque nous le rencontrons, si Christian VII est encore officiellement le monarque, dans la pratique, le pays est gouverné par son fils, Frédéric VI, le roi étant considéré comme instable mentalement, voire carrément dément. Le roi donc, mais quid de l'horloger dont on parle dans le titre. En fait, le suspense ne sera pas long, puisqu'il suffit de lire le début du roman pour comprendre de quoi il s'agit. Voici. Le temps s'était arrêté. Le chef-d'œuvre façonné à la gloire de Dieu et de la Vierge Marie, 200 ans plus tôt, n'avait, de mémoire d'homme, jamais sonné les heures du jour et de la nuit, ni indiqué les phases de la lune ou la course des planètes. Ce butin de guerre, qui lors d'un conflit oublié depuis longtemps, reposait sous une épaisse couche de poussière dans une remise du palais royal de Christiansborg, les monarques et leur règne avaient passé sans que le temps reprenne sa course. On avait jadis convoqué les savants et maîtres ouvriers les plus brillants pour examiner cette horloge et tenter de restaurer son mécanisme, mais tous avaient fini par renoncer, convaincus qu'en dépit de sa grande beauté, plus jamais elle ne sonnerait les heures ni n'afficherait les mouvements des corps célestes. Il en était allé ainsi jusqu'au jour où un horloger vieillissant, propriétaire d'une échoppe près de l'îlot de Stolzenmen, où se trouvait le château royal de Christiansborg, fut convoqué au palais pour examiner une pendule. Voilà donc le décor est posé. Alors le vieil horloger dont il est question, John Sivertsen, est veuf et sans famille à Copenhague puisqu'il a grandi en Islande, à leur possession du royaume du Danemark. En répondant à l'invitation qu'ils considèrent bien entendu comme un honneur, l'horloger se met au travail, se rendant au château chaque jour pour tenter de remettre en marche cette fabuleuse horloge. Abandonné dans une remise du palais comme n'importe quel autre objet, le fait d'œuvre du maître Albrecht non seulement s'avère en très mauvais état, mais en plus notoirement incomplet, puisque plusieurs pièces et mécanismes uniques ont tout bonnement disparu. Un soir, alors que le vieil homme s'affaire seul sur l'horloge, le roi surgit à l'improviste dans la réserve, visiblement non informé de la mission de l'horloger. Passé l'effet de surprise, le monarque acquiesce et autorise l'homme à continuer ce qu'il pensait être possiblement une tâche impossible à accomplir. Quelques jours plus tard, à une heure avancée, le monarque revint vers la réserve en robe de chambre, une bouteille de madère largement entamée à la main. Le roi commence à s'intéresser alors à la tentative de restauration de l'œuvre d'Albrecht, puis on vient interroger le vieil homme, surtout lorsqu'il apprend qu'il vient de la lointaine Islande. Ainsi débutent les rencontres régulières entre les deux hommes. Le roi pousse l'horloger à lui raconter avec force détail la vie en Islande, ce qu'il fait à travers l'histoire de ses parents dont l'issue, nous le verrons, dépendra d'une décision de Frédéric V, le père de Christian VII. Dans ce roman historique, parfaitement documenté, où tous les faits historiques relatés sont véridiques, ainsi que j'ai pu le vérifier, Arnaldur Indridason nous entraîne, certes avec talent sur les terres d'Islande, mais dresse aussi en filigrane une peinture sans concession de la royauté danoise. Le récit fonctionne d'ailleurs presque comme un roman policier où on cherche à savoir ce qui va se passer au chapitre d'après. C'est pourquoi je vous invite chaleureusement à lire cet ouvrage singulier qui profite de l'excellent travail d'Éric Bourri, le traducteur attitré d'Arnaldur Indridason.
Eh bien, magnifique idée de lecture. Merci à vous, Éric. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut retrouver votre chronique très vite sur votre blog?
Oui, exactement, comme d'habitude.
Donc, vanham.over-blog.com d'ici quelques minutes, hein, le temps...
Exactement, le temps de la publier.
Voilà, j'allais dire le temps de la publicité, mais vous, le temps de la publier. Un petit mot à passer?
Oui, je voulais simplement profiter de mon passage à l'antenne pour embrasser chaleureusement tous les membres de ma famille.
Eh bien, je me joins à vous pour les embrasser également. On vous souhaite tout plein de bonnes choses jusqu'à la prochaine chronique sur un
prochain... Qui sera là très bientôt.
Ouais, oui, peut-être une idée pour les fêtes de fin d'année à glisser sous le pied du sapin ou au contraire pour la rentrée littéraire qui commence comme chaque année dès le mois de janvier, car nos amis auteurs ont toujours des idées à nous faire découvrir grâce à leurs récits. Merci encore à vous, Éric. On rappelle...
À très bientôt.
Chronique à retrouver très vite sur votre blog. Merci, à bientôt, au revoir.
Merci, au revoir.
Et nous, on se retrouve juste après ça. À tout de suite.
Regarde autour, tout est là, tout est fait pour nous. Tout le temps court. Le temps est comme toujours, bien trop court. Hier était hier, déjà au passé dépassé. Hier n'est plus à refaire ou à ressasser. Alors rien ne sert de s'encombrer. Laissons-nous vivre le présent d'abord. Que rien d'avance n'est décidé. Aucun destin n'est gravé dans ses mains. Tout peut changer, tout peut arriver.
laissons nous vivre le présent d'abord. Oui, laissons nous vivre à l'instant plus fort.
FM Radio, le média valdoisien.
Et vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Les mots des livres. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h et nous allons maintenant parler de la suite de la saga Alban de Marie-Bernadette Dupuis avec ce tome 3, Le sang des justes. C'est à retrouver aux éditions Calman Lévy. Alors on est en France occupée, le combat, notre héroïne pour la liberté et la survie des siens se poursuit. On est précisément en décembre 40, la France est désormais totalement occupée. Pour Alban, Noël s'annonce sous le signe des restrictions, sans la présence rassurante de Raphaël, vous savez, ce membre actif d'un réseau de résistance. Si elle cède à une joie timide lorsqu'il lui annonce son retour, les incidents troublants vont se succéder au château, faisant peser une mystérieuse menace sur la jeune femme, sa famille et ses amis. Révoltée par les exactions commises par les soldats allemands, elle se consacre à son métier d'enseignante sans pour autant renoncer au combat. Malgré bien des chagrins et les risques perpétuels de dénonciation, elle va continuer à mener des actions pour sauver et offrir asile à des familles juives tentant d'échapper aux rafles de plus en plus nombreuses. Mais les occupants de son pays ne sont pas les plus dangereux. Le retour d'un ennemi redoutable va l'entraîner sur le seuil d'un enfer et va lui faire vivre des heures de terreur qui vont la marquer à jamais. Vous l'avez compris, un troisième tome sous haute tension, dans laquelle Alban a sa vie en danger. À ne pas rater donc cette suite de Marie-Bernadette Dupuis, parue aux éditions Calman Lévy. Autre sujet et tout autre environnement, c'est du britannique Cyril Hare, le clarinettiste manquant. C'est à retrouver aux éditions Rivage Poche. Alors c'est l'histoire d'une violoniste qui va être assassinée et évidemment une enquête va se tenir. Alors cette victime, elle s'appelle Lucie, elle est violoniste et elle va être retrouvée morte dans sa loge quelques minutes avant son entrée en scène. Elle a été étranglée à l'aide d'un pas de soie. Et voilà Francis, un ancien avocat et trésorier de l'orchestre, qui est contraint d'aider les deux hommes chargés de l'enquête, l'inspecteur Trimble et le brigadier Tate. Le problème, eh bien, c'est que les suspects sont nombreux. Vous avez l'ex-mari Lucie, vous avez le clarinettiste polonais. Alors évidemment, il va y avoir de nombreuses fausses pistes, des rebondissements, bref, une symphonie loufoque est enlevé dans la plus pure tradition du roman d'énigmes mené ici par l'auteur Cyril Hare, dont on va retrouver les mœurs de province et gratiné avec beaucoup d'humour. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site paillourivage.com pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'auteur Cyril Hare. C'est l'auteur de Meurtre à l'anglaise. Et donc, vous pouvez retrouver ce roman, Le clarinettiste manquant, aux éditions Rivage, dans la collection Poche, et dans la collection Poche Noire. Autre ouvrage également paru en petit format, c'est chez J'ai lu les enquêtes de Renoir et Monet de Léonie Vibert avec Nature morte. Alors ici, c'est le propriétaire désargenté d'un château sartois qui invite quelques amis à passer les fêtes de fin d'année avec lui. Et pour les divertir, il demande au directeur de l'école des Beaux-Arts de Paris de lui envoyer des étudiants, vous savez, pour croquer les hôtes. L'homme lui déniche deux jeunes peintres sans le sou, un certain Claude Monet et son ami Pierre-Auguste Renoir. Mais l'un des invités va être assassiné au milieu de cette population bourgeoise solidaire, alors que l'arrivée de la police se fait attendre et qu'une tempête de neige fait rage, les deux peintres vont devoir se disculper. C'est formidable. On plonge avec délice dans cet univers qui fait penser à un roman de polar anglo-saxon. C'est formidable. Et puis on va croiser donc ces deux peintres qui étaient Monet et Renoir, mais dans leurs jeunes années, et c'est à croquer de toute urgence. Les enquêtes de Renoir et Monet, c'est de Léonie Vibert et c'est à retrouver aux éditions J'ai lu.
Qui sourit,
elle se fout d'être mouillée comme de la dernière pluie. mais ici y a pas d'eau, qu'un silence ordinaire qui ne cesse de peser
sur nous comme un enfer.
Moi, ce que je voulais, c'est jouer,
mais pas avec ma vie.
Et je vous regarde verser des larmes qu'on n'a plus ici.
Moi, ce que je voudrais, c'est danser pour faire tomber la pluie.
Je vous regarde creuser
la ferme et pas des puits.
Je veux pas.
Comme un autre qui grandit
loin des dunes d'Afrique,
sans avoir à scruter,
sans avoir à subir
un ciel qui vous oublie,
un ciel sans avenir.
Je demande pas un ruisseau,
encore moins une rivière.
Je veux seulement jeter
des bouteilles à la mer.
Moi, ce que je voulais, c'est jouer,
mais pas avec ma vie.
Je vous regarde verser
des larmes qu'on n'a plus ici.
Moi, ce que je
la terre n'est pas des puits.
Je veux pas l'aumône. Je veux pas déranger, mais juste un peu trop.
Laisser dans l'indifférence et l'oubli, que le monde se réveille, il est temps qu'on agisse.
Des ricochets.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Et vous êtes toujours à l'écoute des mots des livres sur IDFM Radio. Je suis Laurence, on parcourt les sorties littéraires et je vous propose Le Retour du Parisien. C'est de Julia Chapman, c'est paru aux éditions Mon Poche. Après l'auberge, la suite des aventures rocambolesques des villageois de Fogasse. Alors depuis le départ de son mari Jacques, Josette s'occupe seule de l'épicerie de Fogasse. Alors les habitants de cette commune pyrénéenne ont des réclamations à faire sur la fraîcheur de ses baguettes. Et bien qu'ils osent, car Josette tient à son commerce comme à la prunelle de ses yeux, mais l'arrivée de Fabien, son neveu parisien, va la bouleverser. Propriétaire de la moitié de l'épicerie, le jeune homme a fui la capitale et son travail dans la finance. Plein d'idées et de bonne volonté, il veut tout changer, tout moderniser. Mais mal va lui en prendre, car un parisien qui vient tout chambouler à Fogasse, c'est impensable. Alors ce qui est formidable avec la plume de la Britannique Julia Chapman, c'est qu'elle parvient à nous transporter dans l'univers pittoresque d'un petit village des Pyrénées, et là où les traditions se mêlent. Vous avez aussi des personnages magnifiques qui a à la fois de l'humour, de la tension, de l'émotion. On voit aussi le rapport aux autres, le rapport au parisianisme, au fait qu'ils veulent tout changer entre jeunes et anciens, entre modernes et traditionnels. C'est formidable. Et pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site des éditions Mon Poche. Alors, un petit mot aussi sur l'autrice, Julia Chapman. Elle a exercé comme prof d'anglais un peu un peu partout dans le monde et en France. Elle a même dirigé une auberge dans les Pyrénées avec son mari pendant 6 ans. Et c'est là qu'elle a trouvé donc sa fameuse inspiration pour les chroniques de Fogas. Elle est repartie en Angleterre depuis, mais elle nous livre ses souvenirs, entre guillemets, avec cette plume qui nous replonge dans ce village et parmi ses villageois. Autre ouvrage, mais là c'est plus pour... les jeunes lecteurs, c'est Poulain qui voulait être un zèbre. C'est un premier roman de Joséphine Cordona, à l'intention de la jeunesse. C'est paru aux éditions La Joie de Lire. C'est plutôt un roman illustré de la collection e-book de La Joie de Lire. Alors c'est l'auteur qui s'adresse donc à la jeunesse. Il propose un texte qui apporte beaucoup de douceur, mais qui aborde un thème d'une grande actualité, l'acceptation de soi. Alors l'album débute ainsi. Par la naissance de Poulain, son père et sa mère se félicitent du beau cheval qu'il va devenir quand il sera grand. Cependant, quand Poulain rencontre un troupeau d'équidés dont la robe est blanche et ornée de rayures noires, c'est la fascination au point de vouloir lui-même devenir un zèbre. Alors pour réaliser ce rêve, il doit quitter ses parents, sa tribu qui évidemment n'accepte pas d'autres animaux que des chevaux en son sein. Commence alors une longue errance. Alors vous avez dans ce livre la quête d'identité, l'acceptation de soi, la différence, mais aussi la solitude, et tout cela dans un monde de la savane et des animaux. Les illustrations ont forcément ces tons chauds qui évoquent cette région du monde et qui contribuent à faire de ce roman pour les jeunes un premier abord, dépasser la première lecture et découvrir qu'est-ce que veut dire ce poulain qui veut devenir zèbre, et ça peut-être aider des jeunes à partir de 8 ans à évoquer ce sujet avec les plus grands. C'est de Joséphine Cordona, donc c'est son premier roman pour la jeunesse et c'est illustré par Christophe Merlin. Si vous voulez en savoir plus sur Poulain qui voulait être un zèbre, n'hésitez pas à aller sur le site lajoiedelire.ch.
Ça m'a pris par surprise quand j'étais qu'un gamin. Je regardais tomber mes nuits et j'en attendais rien.
Moi, à Springfield, Massachusetts, la vie coulait comme de l'eau. Un matin, j'ai pris perpète en ouvrant la radio.
Ça s'appelait rock and roll.
Moi, ça me rendait fort.
Moi, j'y ai rien compris, sauf que c'était ma vie. Tu comprends rien, mais que ça sonne. Ça faisait 1, 2, 3, petit maman, 4, 5, 6, amis. 8, 9, can't get enough. 10, 11, 12, I ain't got the blues.
1, 2, 3, come on baby. 4, 5, 6, a kiss. 7, 8, 9, you're on my mind. 10, 11, 12, tell me when.
Il paraît qu'il y en aurait qui se donnent pour du pouvoir, pour de l'or. Chacun sa façon de voiler son âme. On n'est pas pour ceux qui s'ignorent.
Moi quand j'entends les trois,
IDFM Radio, le média valdoisien.
Et nous parlons maintenant littérature jeunesse avec un documentaire qui devrait beaucoup plaire à celles et ceux qui aiment et sont curieux. Et tout cela sur fond d'humour. Il s'intitule Les Terrestres, une étude cosmique du genre humain. C'est donc un documentaire que l'on doit à Eva Zollars et Robert Zajka. Alors ça évoque des thèmes d'un documentaire qui parle de l'être humain. Donc ça parle de la Terre, des animaux, des humains, des corps, des coutumes de la société, mais pas que. Car ça a été fait d'une façon peu banale. Ça donne un aperçu à la fois sur la vie sur Terre, mais du point de vue des extraterrestres. Cette approche est assez drôle, hein, et évidemment, on va découvrir avec des touches d'humour une manière d'apprendre des informations scientifiques, géographiques, historiques, comme des anecdotes plus légères, comme saviez-vous que l'ADN humain est identique à 90% de celui d'un chat ? Alors, les illustrations aussi sont pleines de détails, pleines de couleurs, et ça rend ce documentaire très ludique. Et on apprend donc beaucoup de choses sur notre société et cela donc grâce à la plume de Eva Zollars et Robert Zajka, un duo de Polonais, et c'est un titre Les Terrestres, une étude cosmique du genre humain, à découvrir de toute urgence aux éditions La Joie de Lire. Alors après cette ovni littéraire, si j'ose dire, je vous propose de découvrir un album qui détourne les codes de la chevalerie pour apprendre à accepter et à s'accepter, pardon, et à se libérer des injonctions. Le titre Milo le chevalier, c'est de Grégoire Laforce et Charlotte Parent, c'est paru aux éditions Seuil Jeunesse. Alors, qui est Milo ? Eh bien, c'est l'arrière-petit-fils et fils d'un chevalier. Donc, Milo prend la chevalerie très au sérieux et ne quitte jamais son armure. Mais à quoi ressemble-t-il ? Impossible de le dire. Il ne quitte jamais cette armure. Jusqu'au jour où il va se retrouver coincé sous une averse. L'armure va rouiller, l'emprisonner, et car il ne peut plus bouger. Il va donc devoir se débarrasser de cette armure au sens propre comme au sens figuré. C'est donc un récit d'aventure qui parle de liberté, celle qu'on gagne en se libérant des injonctions pour s'accepter tel que l'on est. C'est très bien écrit, c'est très drôle et c'est à retrouver donc aux éditions Seuil Jeunesse à partir de 4 ans, le titre Milo le chevalier. Et pour terminer, aux éditions Nathan, un album cache-cache, La promenade des petites souris, c'est de Mélissande Luringer. C'est pour les tout petits à partir de 6 mois avec des caches en feutrine. On va donc découvrir la famille souris, partir en promenade en forêt et rencontrer de nombreux amis comme Madame la Taupe, les oiseaux, la rivière, une grenouille, des libellules, des hérissons. Bref, c'est formidable. Les animations sont très dynamiques avec des couleurs de saison. Et puis nos amis les souris sont à la fois drôles et attachantes. C'est à retrouver aux éditions Nathan. Je rappelle le titre, La promenade des petites souris. Ça fait partie de la collection Cache-Cache avec ici des caches en feutrine. C'est tout doux pour les petits à partir de 6 mois. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site des éditions Nathan, www.nathan.fr.
Thank you. was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. Sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my way. Still remember these old country lanes when we.
BFM Radio, le média valdoisien.
Et avant de se quitter, je vous informe que se tiendra ce week-end, samedi 23 et dimanche 24, de 10h à 19h à la salle des fêtes qui se trouve avenue Chauffeur à Deuil-la-Barre, le premier salon du livre jeunesse de Deuil-la-Barre. L'entrée est libre, je vous rappelle, donc c'est ce week-end de 10h à 19h. N'hésitez pas à aller sur le site de la commune, vous aurez toutes les infos qui vous rappelleront, qui seront invités, etc., etc. Il y a jusqu'au 25 novembre le Festival Paris en toutes lettres, c'est à Paris, hein, à la Maison de la Poésie et dans une dizaine de lieux partenaires. Je vous ai glissé le lien sur le blog de l'émission. Il y a aussi d'autres événements, notamment des salons qui vont se tenir très prochainement. Je vous invite à aller sur le blog lesmots-delivre.over-blog.com pour en savoir plus. La semaine prochaine, on va se retrouver avec Célia Ducaju pour un très bel album de bande dessinée qui s'intitule Interlude, c'est paru chez Dargo. Et on retrouvera également Damien Marage pour un très beau livre à glisser au pied du sapin qui s'intitule La belle histoire des merveilles de la nature. Nous, on était au début d'émission avec Nicolas Barral pour son album L'intranquille Monsieur Pessoa, paru chez Dargo, un magnifique cadeau à offrir ou à s'offrir. Si vous voulez retrouver les ouvrages dont on a parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à aller sur le blog de l'émission lesmots-delivre.over-blog.com. On se quitte en musique. Je vous souhaite une excellente soirée sur les ondes d'IDFM Radio. À la semaine prochaine. Au revoir.
Qui me fera tenir en place. C'est pas l'argent qui me fera tenir en place. L'argent, il s'épuisera bien avant moi. Te barre pas, tu verras. C'est sur ma vie.